sera pas surpris si je vous dis que nous ne serons pas présents. Lorsque les élections régionales étaient encore à la proportionnelle en 1998, nous avions eu 7 élus de lutte ouvrière dans le Nord-Pas-de-Calais et 3 en Picardie. Ensuite, la loi a été modifiée pour éliminer les courants politiques minoritaires comme le nôtre. Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer à militer ni de nous présenter aux élections. Nous savons bien sûr, et nous disons régulièrement, que les élections ne permettent pas de changer d'avis. Mais nous nous présentons à toutes les élections qui permettent de faire entendre la voix des travailleurs, la voix des communistes révolutionnaires. Nous nous présentons aux élections pour permettre aux travailleurs conscients d'exprimer leur opposition à cette société. Lutte ouvrière présente donc des listes dans les 12 régions de la France continentale intitulées « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». On sait que les listes sont obligatoirement composées à parité d'hommes et de femmes. Nous, nous allons plus loin que la loi en ayant autant de femmes que d'hommes pour les 12 têtes de liste. Pour la région et aussi pour le département du Nord, c'est Éric Pecker, ouvrier dans l'automobile à Toyota à Valenciennes, qui sera la tête de liste. Pour le Pas-de-Calais, ce sera moi, Françoise Millot, qui suis d'ailleurs de Calais, ancienne enseignante, qui sera la tête de liste de la liste départementale. La région regroupant aussi la Picardie, la tête de liste pour l'Aisne sera Anne Zantitenas, qui est enseignante pour l'Oise, Roland Spirco, qui est lui ouvrier de l'automobile à la retraite, et pour la Somme, ce sera Bruno Valény, enseignant. Vous trouverez dans la fête un stand où vous pourrez avoir plus d'informations, si vous le souhaitez, pour vous inscrire, pour nous aider. Et maintenant, je passe la parole à Éric.
Chers camarades, chers amis, je vous souhaite, moi aussi, à toutes et à tous, la bienvenue à cette fête de lutte ouvrière. Je reviendrai sur les élections régionales, mais avant, je voudrais discuter du contexte dans lequel elles ont lieu. Il ne se passe pas un jour sans que le patronat et ses relais au gouvernement et dans les médias ne lancent une nouvelle idée anti-ouvrière. Le code du travail serait trop lourd. Les fonctionnaires seraient trop nombreux, les Français ne travailleraient pas assez, il faudrait reculer encore l'âge de la retraite, faire des économies pour sauver la sécu. Leur imagination est sans limite, mais elle ne connaît qu'une direction, diminuer les droits des travailleurs pour pouvoir aggraver l'exploitation et augmenter les profits des grandes entreprises. Le ministre de l'économie, Macron, s'est fait le champion des déclarations d'amour au MEDEF et des provocations contre les travailleurs. Récemment, c'est aux fonctionnaires et aux 35 heures qu'il s'en est pris. Et c'est l'ensemble du gouvernement Hollande-Valls, comme Sarkozy avant lui, qui mène une politique ouvertement anti-ouvrière pour contenter le grand patronat. Et dans les entreprises, c'est tous les jours que le patronat est à l'attaque. Augmentation des cadences, heures supplémentaires, pression en tout genre sur les travailleurs. Alors que leur système capitaliste est en crise, les patrons continuent d'augmenter leurs profits. Les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont encore battu des records. Près de 40 milliards pour les seuls 6 premiers mois de l'année, en hausse de plus de 27%. Parmi ces champions des profits, il y a des banques comme la BNP Paribas, des entreprises de l'automobile comme Peugeot, qui se disaient il y a peu au bord de la faillite, pour justifier la fermeture de l'usine d'Aulnay. Et il y a des groupes comme Kering, propriété de Pinot, celui qui a revendu le Printemps et la Redoute, qui a tout simplement doublé ses bénéfices. Ces sommes mirobolantes sont le fruit de l'exploitation toujours plus grande de travailleurs de moins en moins nombreux. Mais ils sont le fruit aussi d'une spéculation effrénée sur les marchés financiers, quitte à mettre toute l'économie et des pays entiers au bord du gouffre. C'est notamment le cas de la Grèce en Europe. où les conséquences de la rapacité du capitalisme financier se font le plus sentir pour le moment. Le taux de chômage atteint près de 25% et 7 chômeurs sur 10 cherchent en vain du travail depuis plus d'un an. On estime au moins à 200 000 le nombre de Grecs qui ont décidé d'émigrer, en particulier des jeunes, certains pour étudier, les autres pour trouver du travail. Et les travailleurs grecs payent aussi par la détérioration des services publics, en particulier dans l'éducation et dans la santé. Depuis plusieurs années, les femmes doivent désormais payer 1 500 euros si elles veulent accoucher dans de bonnes conditions à l'hôpital, et une partie seulement leur est remboursée. Depuis 2010, le montant des pensions de retraite a déjà baissé de 30% à 15% pour les plus faibles, qui se monte à environ 500 euros. En septembre, de nouvelles contributions pour l'assurance maladie sont entrées en vigueur. À cela, il faut ajouter les hausses déjà effectives, comme celle de la TVA, qui passe de 13% à 23% sur de nombreux produits. Et il faut aussi ajouter le nouvel impôt foncier. Et de nouvelles hausses d'impôts sont annoncées, comme l'impôt sur le revenu des agriculteurs, qui devrait passer de 13% à 20% en 2016. Pourtant, Tsipras et son parti Syriza se sont présentés comme un espoir pour les classes populaires grecques, pour desserrer le carcan de l'austérité. Et même si Syriza a remporté les dernières élections législatives, la vague d'espoir soulevée en janvier dernier a laissé la place à beaucoup de désillusions. Mais pour tous ceux qui ne se résignent pas, en Grèce comme ici, il faut tirer les leçons de l'échec de Tsipras. Tsipras a certes été le premier dirigeant grec à contester le sort imposé à son pays par les créanciers. Il a même été le seul représentant des pays pauvres d'Europe à le faire. On peut lui reconnaître du courage politique. On peut comprendre que certains parmi les classes pauvres de Grèce en soient fiers. Mais il faut regarder les choses en face. Que reste-t-il du Tsipras qui promettait d'arrêter l'austérité mortelle pour les classes exploitées de Grèce? Que reste-t-il de celui qui voulait forcer les créanciers à relâcher leur emprise pour donner la priorité aux plus pauvres, aux travailleurs, aux retraités les plus modestes? Une certaine image et beaucoup de paroles creuses. Car aujourd'hui, Tsipras est la courroie de transmission de la purge ordonnée par l'Union européenne et le FMI. Il s'est engagé auprès d'eux à baisser les retraites, à augmenter la TVA. Il va augmenter les impôts pesant sur les paysans. Il va couper dans les dépenses publiques et privatiser tout ce qui peut l'être encore. Le tout sous la tutelle de l'Union européenne. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment Tsipras s'est-il battu? Avec quelle politique, quels objectifs et quels moyens? Tsipras a créé des illusions chez ceux qui étaient prêts à en avoir. Il n'a jamais visé la remise en cause de l'ordre capitaliste. Il n'a jamais contesté le remboursement de la dette grecque dans laquelle les classes populaires ne sont pour rien. Et il n'a même pas mené la lutte dans son propre pays pour faire payer un tant soit peu la bourgeoisie grecque. Son objectif, modeste, était d'obtenir un peu de marge de manœuvre de façon à pouvoir prendre quelques mesures qui auraient soulagé les plus pauvres. Il a bataillé auprès des créanciers, il a bataillé dans les sommets européens et dans les cabinets ministériels. Il s'est servi du suffrage populaire et des élections pour peser dans les négociations. Rien n'y a fait. Il faut que les travailleurs sachent que la bourgeoisie et les dirigeants européens sont impitoyables. Ils ne feront aucune concession. Ils n'admettront une remise en cause de l'austérité que contraints et forcés par une révolte sociale. La solution est dans le camp des exploités eux-mêmes, dans leur capacité à se battre et à agir d'en bas, en usant de toutes leurs forces sociales. Dans le passé, c'est cette lutte de classe qui a réussi à repousser le mur de l'argent. Ce sera la même chose à l'avenir. Oui, il faut se méfier comme de la peste de tous ceux qui, en Grèce comme ici, prétendent faire le bien des travailleurs sans être prêts à combattre les intérêts de la bourgeoisie et sans expliquer que la classe ouvrière n'obtiendra rien sans se battre. Tsipras fait partie de ces faux amis de la classe ouvrière, et que sa dernière victoire électorale ait été accueillie favorablement par tous les dirigeants européens le montre assez. Depuis que Tsipras s'est soumis à leur diktat, il est passé du rang de bête noire de l'Europe à celui d'homme politique responsable et crédible. Tous les dirigeants de Hollande à Merkel misent maintenant sur Tsipras et sa capacité à stabiliser le pays, c'est-à-dire à imposer une énième cure d'austérité. Eh bien, espérons qu'ils se trompent. Espérons que le monde du travail ne se laissera pas faire. Espérons que les travailleurs victimes du chômage et de l'abaissement de leur niveau de vie, les retraités qui vont subir la baisse de leur pension, les paysans qui vont voir leurs taxes doubler, espérons qu'ils réagiront. Si en Grèce, la politique des capitalistes a des conséquences très dures, dans le tiers-monde, la situation devient catastrophique. Des millions d'Irakiens, de Syriens, d'Afghans, d'Érythréens, d'Africains en général, fuient les guerres et la misère qui ravagent leur pays. Beaucoup se retrouvent en Turquie, en Jordanie, au Liban. Mais depuis plusieurs semaines, l'immigration vers les pays européens de centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes nous montre à quel point les frontières sont une arme uniquement contre les pauvres. Ni les barbelés érigés sur leur passage, ni la brutalité policière en Macédoine ou en Hongrie n'ont réussi à empêcher des centaines de milliers de réfugiés syriens de rejoindre coûte que coûte l'Europe. Alors, les principaux dirigeants européens ont entrouvert un moment leurs frontières. Mais ce n'est pas la générosité qui les guide. Hollande a profité de l'événement pour annoncer que la France allait bombarder la Syrie. Les bombes françaises vont terroriser un peu plus les habitants des régions déjà sous la dictature de l'État islamique, et elles vont contribuer à jeter sur les routes de l'exil de nouveaux contingents de réfugiés. Dans l'étalage de la générosité, Hollande s'est fait court-circuiter par Merkel. Quand le gouvernement s'est engagé à accepter 24 000 réfugiés supplémentaires sur 2 ans, l'Allemagne en a accueilli 20 000 en un seul week-end. Et elle a affirmé vouloir accueillir plus de 500 000 immigrés par an dans les prochaines années, peut-être 800 000 au cours de l'année 2015. Mais au bout de quelques jours, l'Allemagne a brusquement rétabli le contrôle à ses frontières. Elle a claqué la porte devant les nouveaux arrivants. On voit avec quelle facilité les États de l'Union européenne peuvent revenir en arrière sur un des rares aspects positifs de l'Union. S'agit-il seulement d'un coup de frein provisoire ? C'est possible, car il est incontestable que les besoins en main-d'œuvre qualifiée du patronat allemand, dans un pays à la population vieillissante, interviennent dans la générosité de Merkel. Ainsi, le PDG de Daimler a déclaré « La plupart des réfugiés sont jeunes, bien formés et très motivés. C'est exactement le genre de personnes que nous recherchons. » Il voudrait pouvoir les recruter directement dans les centres d'accueil. Le président de la Fédération des industriels allemands réclame de son côté la simplification des procédures administratives pour permettre l'embauche de demandeurs d'asile. En France, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, ne dit pas autre chose. Pour lui, l'accueil des migrants est une opportunité pour notre pays car ils ont souvent un fort niveau d'éducation, sont jeunes et formés. En fait, il espère mettre en œuvre l'immigration choisie. Depuis les années 1970, la politique officielle de tous les gouvernements est un contrôle strict de l'immigration. Mais ce n'est pas l'exigence du patronat, qui a toujours été réticent à entraver les déplacements des travailleurs. C'est le résultat, en fait, d'une course à la démagogie xénophobe menée par les dirigeants politiques qui filent le train à l'extrême droite. Tous les gouvernements, de gauche comme de droite, sont incapables d'enrayer le chômage. Alors, pour détourner la colère, il désigne des boucs émissaires et exacerbe la division entre les travailleurs en rabâchant jusqu'à la nausée qu'on ne pourrait pas accueillir toute la misère du monde. Sur le fond, il n'y a pas de vraie divergence entre Hollande et Merkel sur la crise des migrants. Ils sont au diapason quand ils refusent d'accepter les migrants économiques. Ils veulent mettre en place des camps de triage en Italie, en Grèce ou en Hongrie, voire en Turquie, en Libye ou d'autres pays de transit, comme si fuir la misère était moins légitime que fuir la guerre. par leurs interventions militaires, les grandes puissances impérialistes sont directement responsables de la barbarie qui s'étend dans les vastes régions du monde. Mais elles le sont tout autant du pillage et du sous-développement qui poussent des millions de femmes et d'hommes à l'exil. Même s'il pouvait être mis en œuvre, le tri réclamé par les dirigeants européens est inique et prépare de nouveaux drames humains. Comment imaginer que les hommes et les femmes qui sont parvenus aux portes de l'Europe au péril de leur vie, en vendant tous leurs biens pour payer leur passage, puissent accepter, sans se battre, d'être ramenés vers l'enfer qu'ils ont quitté. Quelles que soient les raisons de leur départ, ni les camps ni les barbelés n'arrêteront les migrants. Tous ceux qu'ils prétendent mentent ou nous préparent des lendemains sanglants. Sarkozy promet de rétablir les postes de frontières entre les pays d'espace Schengen pour les ressortissants non européens. Hollande l'avait devancé en bloquant fin juin les migrants africains à Vintimille. Et il n'a pas fallu longtemps pour que de l'Allemagne à la Hongrie, en passant par la Tchéquie ou la Slovaquie, la libre circulation au sein de l'Europe soit brisée. Les divergences d'intérêts et de politiques entre les États de l'Union européenne se creusent de plus en plus. La libre circulation sur toute une partie du continent sans rencontrer de frontières, au moins pour les ressortissants européens, a représenté un progrès indéniable. Mais même ce droit est menacé de disparition. L'Europe bourgeoise régresse et pourrait même éclater. Alors, à l'Europe des frontières, des barbelés et des camps, les travailleurs doivent opposer le droit à la liberté de circulation et d'installation sans entrave ni visa. Tous les travailleurs sont des migrants potentiels à la recherche d'un emploi ou d'un lieu pour vivre au gré des crises et des fermetures d'entreprises. C'est pourquoi ils n'ont pas de patrie. Les travailleurs conscients ne doivent pas laisser leur adversaire patron nationaliste de tout poil faire des réfugiés leurs concurrents ou leurs ennemis. Aujourd'hui, nombre de travailleurs choqués par le sort fait aux migrants reprennent pourtant la fausse évidence selon laquelle il n'y a déjà pas assez de boulot pour tout le monde ici, on ne peut pas les accueillir. Eh bien, ils se trompent et donnent des armes à leur adversaire. Depuis la naissance du capitalisme, pour aggraver l'exploitation, le patronat n'a cessé d'utiliser l'arme de la division, de dresser les travailleurs qualifiés contre ceux qui ne l'étaient pas, les femmes contre les hommes, les travailleurs débarqués des campagnes contre ceux installés avant eux. Aujourd'hui, ils opposent les intérimaires aux embauchés, les travailleurs détachés venus de Pologne ou du Portugal aux travailleurs nationaux, et maintenant les migrants à tous les autres. Face à cette division, les travailleurs conscients ont toujours opposé l'union de tous les travailleurs et l'internationalisme. Les migrants ne sont en rien responsables des 25 millions de chômeurs officiellement recensés dans l'Union européenne. Le chômage ne provient pas d'un excédent de main-d'œuvre, mais de la rapacité de la bourgeoisie. Pour augmenter toujours plus ses profits, elle augmente la productivité, ferme des usines et préfère spéculer plutôt que de produire des marchandises nécessaires pour satisfaire les besoins de tous. Alors, pour mettre un terme à l'hécatombe du chômage et enrayer l'appauvrissement des classes populaires, la seule voie est de contester à la bourgeoisie sa dictature sur l'économie et la société. Il n'y a pas d'aménagement possible. Poussé par le désespoir, déterminés à survivre, prêts à franchir des centaines de kilomètres à pied pour rallier l'Allemagne ou la Suède, les migrants ne se laisseront pas arrêter. Nous devons en faire nos alliés et nos frères de combat contre le patronat et ses larbins gouvernementaux. Pour revenir aux élections régionales dont Françoise Millon nous a parlé, comme elle l'a dit, dans ces élections, nous voulons faire entendre le camp des travailleurs. Nous voulons que ceux des salariés, des chômeurs, des retraités, qui sont conscients d'être sacrifiés sur l'autel des profits patronaux et qui ne l'acceptent pas, puissent le dire. Nous voulons que les travailleurs qui ont une conscience de classe et qui veulent affirmer leurs intérêts puissent le faire. Il faut que les salariés, les travailleurs, les exploités puissent s'exprimer. Ce sont les ouvriers qui s'usent à la chaîne chez Toyota où je travaille, ou chez Seven Nord, ou chez Renault à Douai, pour fabriquer des voitures et dont beaucoup n'arrivent même pas à s'en payer une correcte. Ce sont les aides-soignantes et les infirmières comme au CHR à Lille, à Roubaix ou à Tourcoing, qui n'en peuvent plus du manque de personnel et qui ont pourtant des responsabilités vitales sur les bras. Ce sont les caissières des supermarchés, les employés de la restauration rapide et tous les travailleurs du commerce qui vivent de la précarité, les temps partiels imposés, les horaires à rallonge souvent pas payés. Ce sont aussi les enseignantes et les enseignants qui s'épuisent dans les écoles, collèges ou lycées devant des classes surchargées. Ce sont les cheminots qui voient leurs conditions de travail se dégrader comme jamais. Eh bien, nous voulons que tous ces travailleurs et bien d'autres aient la possibilité d'exprimer leurs besoins et leurs revendications. Aucune des listes des partis institutionnels en présence ne leur permet. La droite et l'extrême droite sont des partis dévoués à l'ordre bourgeois, des partis anti-ouvriers et réactionnaires. Xavier Bertrand, ex-ministre de Sarkozy, ose déclarer « Je veux remettre la région au travail et lutter contre l'assistanat qui est une prison ». Mais ce n'est pas lui qui imposera au patron de ne plus licencier, ni de créer un seul emploi de plus. Alors, comme les autres, il s'en prendra à ceux qu'il appelle les assistés, pas les entreprises assistées, hein, qui reçoivent actuellement là, les 40 milliards du CICE. Non, il continuera, comme les autres, à verser des subventions à ces entreprises, toujours sous prétexte d'emplois qui ne viennent pas. Par contre, il s'en prendra à ceux qui survivent, avec quelques centaines d'euros par mois, parfois après toute une vie de travail. Quant à Marine Le Pen, elle est, comme la droite, en pire. Elle ment comme elle respire. Elle veut arriver au pouvoir pour faire comme les autres. Marine Le Pen tente de récupérer les voix des travailleurs en faisant semblant de se préoccuper de leur sort. Mais elle désigne comme responsable des difficultés les réfugiés, les étrangers ou encore l'Europe ou l'euro. Jamais les patrons qui licencient et ferment les usines. Ces idées sont du poison qui divise les travailleurs. Travailleurs qui pensent protester contre la politique du gouvernement en votant pour le Front National ont tort. Si Marine Le Pen, si le Front National arrive au pouvoir, il s'en prendra d'abord aux réfugiés de la guerre et de la misère. Mais tous les travailleurs seront visés. Ceux qui ont perdu leur emploi et qui sont au chômage, et par contre coup l'ensemble des travailleurs, y compris ceux qui auront voté FN. Même le simple fait que les scores électoraux du Front National soient élevés est déjà négatif pour les travailleurs. Car tous les partis qui font la course derrière le Front National poussent à la division des populations, à la division des travailleurs. Et cette division affaiblit les travailleurs face aux attaques du patronat. Mais à gauche, il n'y a pas non plus de parti pour mettre en avant les intérêts de classe des travailleurs. Le Parti Socialiste est au gouvernement. Toutes les décisions qu'il prend sont en faveur des banques et du grand patronat et elles font reculer la condition ouvrière. Les lois Macron vont supprimer ce qui restait favorable aux salariés dans le Code du travail et toutes ces déclarations provocatrices montrent dans quelle direction le gouvernement avance, contre les travailleurs, contre les fonctionnaires, contre l'ensemble des travailleurs. Et ce ne sont pas les cris d'orfraie de Martine Aubry, Macron ras-le-bol, a-t-elle déclaré, qui vont effrayer Hollande et ses ministres, tous dévoués aux banquiers et aux milliardaires. Quant au parti de gauche de Mélenchon ou au parti communiste, bien sûr, ils ne sont pas au gouvernement. Ils le critiquent, mais ils lui donnent aussi des conseils, comme si Hollande ne savait pas très bien dans quelle direction il va. Mais surtout, pas plus que les fondeurs du Parti Socialiste, cette gauche ne défend une politique qui met en avant les intérêts des travailleurs. Ils n'expliquent pas que leurs intérêts sont fondamentalement opposés à ceux de la bourgeoisie. Pire même, ils entretiennent l'illusion qu'il y aurait un intérêt national commun aux travailleurs et à leurs exploiteurs. et ils entretiennent l'idée que les travailleurs n'auront pas à lutter pour changer leur sort, qu'il leur suffirait de bien voter pour la vraie gauche. Mais cela, c'est une illusion, et les travailleurs en ont fait maintes fois l'expérience. Eh bien nous, nous présentons des listes dans toutes les régions pour que les travailleurs qui souhaitent puissent faire entendre leur voix, pour qu'ils puissent dénoncer les coups patronaux et la politique anti-ouvrière du gouvernement. Tous les jours, on nous parle des soi-disant difficultés du patronat et des mesures qu'il faudrait prendre pour l'aider. Nous, nous voulons donner la possibilité aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités de mettre en avant les mesures qui leur sont vitales. Nous proposons à l'électorat populaire de se prononcer sur une politique qui représente les intérêts de la classe ouvrière à court et à long terme. Cela signifie, dans les conditions actuelles de la crise, de mettre en avant un programme de lutte contre le chômage et contre la baisse du pouvoir d'achat. Pour ne prendre que ce point, le chômage, nous dirons qu'on peut combattre le chômage en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous répète qu'il faut baisser les charges et subventionner le patronat pour combattre le chômage. Et tous les gouvernements le font, mais le chômage ne cesse de monter. Il est donc évident que cela ne marche pas. Nous disons qu'il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois dans les entreprises. On nous répond souvent que ce n'est pas réaliste. Ainsi, la seule politique réaliste serait de faire la politique patronale, de faire reculer les travailleurs des décennies en arrière pour qu'ils soient de plus en plus exploités et qu'ils gagnent moins tout en travaillant plus, du moins pour ceux qui ont encore un travail. Mais ça ne marche pas. C'est cette politique qui est menée partout en Europe et pire ailleurs. Et non seulement le chômage ne recule pas, mais c'est toute l'économie qui va dans le mur. Ces derniers mois, même les soi-disant spécialistes qui défendent l'économie capitaliste craignent le pire. En effet, une nouvelle déroute financière, une nouvelle panique boursière, une nouvelle explosion de bulles spéculatives précipiterait à nouveau l'économie capitaliste vers une aggravation de la crise du système. Ralentissement de l'économie chinoise, baisse du prix des matières premières, scénario de krach sur les bourses asiatiques et forte baisse en Europe, bulles spéculatives sur les prêts automobiles, il n'y a pas de pilote dans l'avion, personne n'est en mesure de diriger l'économie capitaliste. Alors, les États et les politiciens à leur tête, tous dévoués à la défense des intérêts de la bourgeoisie, essayent à chaque fois de trouver des moyens de ralentir la course vers le précipice en injectant des milliards pour endiguer la chute des bourses. Ils mettent les banques sous perfusion à plus de centaines de milliards. Et ces milliers de milliards de dollars ou d'euros offerts aux banques et aux capitalistes depuis la crise de 2008 par tous les États ne font qu'augmenter encore plus les pouvoirs nuisibles de ces mêmes banques qui créent de nouvelles bulles spéculatives et donc des risques de krach boursier partout dans le monde à tout moment. C'est le chien enragé qui se mord la queue. Ce qui est certain, c'est que les milliers de milliards donnés par les États aux capitalistes pour éviter un effondrement brutal du système financier sont et seront pris dans la poche des travailleurs, comme l'ont été les milliards précédents qui ont permis aux spéculateurs d'accumuler leur fortune. Alors oui, il n'y a pas d'autre échappatoire à la folie financière du capitalisme que de renverser ce système, dont le parasitisme a déjà engendré bien trop de maux pour l'humanité et qui l'amène tout droit à la catastrophe, la régression et la ruine. L'expropriation des capitalistes par la classe sociale des travailleurs, la collectivisation des capitaux et des grands moyens de production industriels et agricoles, c'est la seule issue pour sortir de la barbarie du capitalisme. C'est le programme communiste, c'est notre programme, et il est plus que d'actualité, et nous le dirons dans ces élections régionales. Personne ne pourra se tromper sur le sens des votes pour lutte ouvrière. Ils seront interprétés comme l'affirmation d'un camp, celui des salariés, des chômeurs, des retraités, le camp des travailleurs qui sont victimes de la crise et qui sont conscients d'être sacrifiés, mais qui ne l'acceptent pas. C'est pour cela que les travailleurs qui sont écœurés de la politique de la gauche au gouvernement, les travailleurs qui ne se reconnaissent ni dans la droite, bien sûr, ni dans les partis de la gauche, peuvent se faire entendre en votant pour nos listes. C'est la seule façon pour les travailleurs conscients de protester contre le chômage, contre les bas salaires, contre les retraites au rabais, contre le mépris patronal, sans que leur vote soit détourné par des politiciens sans scrupules. Et au-delà de la situation immédiate des travailleurs, nous ferons entendre les perspectives communistes. Nous voulons profiter de ces élections pour montrer qu'il existe un courant politique qui se place dans la perspective du renversement du pouvoir de la bourgeoisie sur la société, qui se place dans la perspective d'un changement révolutionnaire de la société. Alors, camarades, chers amis, cette campagne électorale est un combat politique où chaque nouvel électeur gagné consciemment au vote pour lutte ouvrière sera précieux pour l'avenir. Et parmi tous les électeurs qui comprendront l'intérêt de voter pour leur camp, le camp des travailleurs, il y en aura inévitablement qui viendront à la conscience de renforcer notre courant communiste révolutionnaire dans leur quartier, dans leur entreprise. Aidez-nous à faire entendre le camp des travailleurs dans cette campagne électorale. Vive la classe ouvrière et vive le communisme !